J'aimerais, avant la prière, lire le psaume 143. Le psaume 143. 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre, ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon âme, dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, sinon je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche mon refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel. Rends-moi la vie. En allemand, conserve-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car je suis ton serviteur. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Levons-nous pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons tous avec le psalmiste prié que nos mains, nous voulons aussi étendre nos mains et nos cœurs vers toi, parler avec toi de toute notre âme, car tu as parlé avec nous. Seigneur, notre Dieu, nous venons dans ta présence, sous le couvercle du sang de l'agneau. Nous nous approchons du trône de la grâce dans la foi et te demandons de ne pas nous rejeter. Regarde ton peuple avec grâce. Bénis ton héritage. Conduis-le sur la voie droite, afin que l'ennemi ne le foule pas. Sois avec nous dans cette réunion que en tant que ton peuple, en tant que ton peuple de l'Alliance, nous puissions écouter les paroles de l'Alliance. Parle avec nous dans cette réunion et que nous ne puissions pas écouter ta parole seulement avec nos oreilles, mais avec nos cœurs et ensuite recevoir ça dans nos cœurs. Seigneur, sois présent par ton esprit. Que ton sang, ô Seigneur, puisse, que ton sang, ta parole et ton esprit agissent parmi nous et agissent dans nos cœurs. Que toutes les autres paroles puissent faire silence et que seulement ta parole s'adresse à nous. Que tout haut esprit soit banni au nom de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Et ton esprit puisse nous conduire dans toute la vérité et nous sanctifier dans la vérité. Et nous te demandons que ton nom soit sanctifié sous et parmi ton peuple. Seigneur Dieu, toi-même, c'est toi qui dois le produire. Nous nous tenons à ta disposition tant que nous le pouvons. Le reste, Seigneur, c'est toi qui dois le faire, ô Dieu. Ensemble, nous te demandons, toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu fidèle, le Dieu véritable. Viens aider notre incapacité, notre faiblesse avec ta puissance. Seigneur, console aujourd'hui, relève, sauve ceux qui sont perdus, guéris ceux qui sont malades, soigne ceux qui sont blessés et console ceux qui sont attristés. Seigneur, pour chacun, tu as la parole adéquate, aussi le ton adéquat. Oui, tu nous comprends mieux que nous puissions nous comprendre les uns les autres, ou bien que nous puissions nous comprendre même nous-mêmes. Ainsi, nous te demandons, Seigneur Dieu, que cette réunion soit un rassemblement en ton nom, dans ta présence, sous le coup de ta parole. Couronne-nous de grâce et de miséricorde. Que personne reparte vide et bénis avec nous tous ceux qui vont écouter plus tard cette prédication. Dieu fidèle, nous te remercions déjà maintenant pour ta présence et nous te demandons de te manifester toi-même en tant que le ressuscité, en tant que le vainqueur de Golgotha. À toi soit la reconnaissance et l'adoration. À toi soit apportée la reconnaissance et l'adoration. Alléluia. Amen. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir louange et honneur, gloire et adoration. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur. Je voudrais souhaiter la bienvenue, oui, cordialement souhaiter la bienvenue à tous. Vous qui êtes derrière, il y a encore des places ici libres. Venez, nous allons venir tous nous rapprocher l'un de l'autre, ne soyons pas éparpillés dans la salle, ce ne serait pas agréable. Si 10 personnes doivent rester debout, ce n'est pas nécessaire. Venez devant, il y a des places assises ici. Peut-être qu'un frère s'occuperait de ça, c'est très gentil. Soyez les bienvenus, la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Oui, oui, poussez-vous un peu pour que cela soit aille mieux. Merci. Merci. Il y a encore de la place ici devant, assise. Particulièrement à tous ceux qui sont là pour la première fois, nous souhaitons de tout notre cœur, très, très cordialement, la bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Nous vous souhaitons, et nous souhaitons à tous, les bénédictions de Dieu. Que ce ne soit pas la dernière fois, mais justement la première, et nous voulons nous réunir de nouveau, toujours de nouveau, jusqu'à ce que notre Seigneur revienne pour prendre les siens dans la gloire. Vous savez, ou bien alors vous l'avez entendu, que pour nous, il ne s'agit pas seulement pour nous d'avoir une réunion, de tenir une réunion de manière ordinaire, comme cela est tenu partout, mais d'écouter dans la réunion ce que Dieu, dans ce temps, par sa parole et par son esprit, a à nous dire. Et l'esprit de Dieu ne va jamais parler à côté de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va toujours prendre la parole de Dieu et nous la révéler. Il y a beaucoup d'esprits religieux et ils parlent à côté de la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, en passant à côté de la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu va toujours prendre la parole de Dieu et nous la révéler. Nous n'en faisons aucun secret et nous n'avons pas honte de confesser que Dieu, dans différents temps, a envoyé des hommes, qu'il a mandaté des hommes et d'une manière particulière qu'il a utilisé des hommes. Ce n'est pas chacun qui pouvait être un Abraham, ce n'est pas chacun qui était Moïse, pas tous pouvaient être Élie. Pas chacun était Paul ou bien un Pierre, un Paul. Mais c'est ainsi que dans notre temps, il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient avoir ce ministère que Frère Branham avait. Et cela nous réjouit, dans le plus profond de notre être, de savoir, avec un absolu divin, que Frère Branham était un homme envoyé de Dieu. Avec un message divin adressé à l'Église dans ce temps. Et par cela, nous avons affaire et nous sommes apportés en relation directe avec la parole directe de Dieu. Heureux l'homme qui ne laisse aucun noyau de la chaîne et qui ne laisse aucune parole de Dieu sans considération, mais qui reçoit tout dans son cœur, qui repasse cela dans son cœur et qui permet à l'Esprit de Dieu de lui révéler cela. Les choses spirituelles, c'est ainsi que Paul écrit aux Corinthiens, doivent être jugées spirituellement. Et que Dieu nous l'accorde, que nous ne prenons pas des normes anciennes qui sont dépassées depuis longtemps, qui n'ont même plus qui sont même plus valables. Avec lesquelles on ne peut pas mesurer la parole de Dieu, mais comme ou bien faire une estimation des choses de Dieu. Mais comme Paul le dit, combiner le contenu spirituel avec le langage spirituel, avec le langage de l'esprit. Ne pas non plus combiner un discours charnel avec le contenu spirituel de la parole de Dieu, mais plutôt nous employons un langage inspiré par l'esprit pour le contenu inspiré par l'esprit. La retransmission de la parole de Dieu par la prédication doit se faire par le même esprit de Dieu par lequel la parole de Dieu, par révélation et inspiration, fut écrite. Donc, alors c'est comme ça que nous sommes apportés en relation avec Dieu, liés avec Dieu, pas en relation, pas liés avec celui qui a apporté la parole et qui la prêche, mais en relation avec Dieu, liés avec Dieu par l'esprit et la parole de Dieu. La prédication doit se tenir par le même esprit de Dieu qui a révélé et inspiré la parole. Sinon, les gens sont liés à un homme, à un évangéliste et repartent déçus à la maison. J'espère que personne n'est venu dans l'attente de recevoir quelque chose d'un homme, mais que tous nous sommes ici avec ce désir sincère d'entendre Dieu nous parler, d'expérimenter Dieu. Et nous disons aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui du sujet réalité. Aujourd'hui, nous allons en vérité rencontrer Dieu. Réalité, c'est notre sujet aujourd'hui, avec l'aide de Dieu. Notre sujet. Je voudrais pour cela lire trois écritures. La première, c'est dans Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. La dernière partie du verset 10. Assemble-moi le peuple. En français, auprès de moi, le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Ensuite, du prophète Joël, chapitre 2, à partir du verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. En allemand, un jour de prière solennelle. Assemblez le peuple. Sanctifiez l'église en allemand. Sanctifier l'assemblée, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleure le sacrificateur, serviteur de l'Éternel, et qu'ils disent, et qu'ils prient ainsi en allemand. Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Dans l'Épître aux Romains, Romains, chapitre 9, à partir du verset 28. Romains 9, verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Pleinement et promptement. Verset 29, et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, qui cherchait la justice qui vient de la loi, en allemand, n'est pas parvenu au but de la loi, en allemand. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais l'objectif de la loi, mais comme provenant des œuvres, ils ont voulu atteindre, parvenir à cela. Ils se sont donc heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Jusqu'ici, la sainte et précieuse parole de Dieu. Dans cette dernière phrase, nous avons lu que Dieu a mis en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et après, il est écrit, et celui qui croit en lui, qui se confie en lui, qui se fonde sur lui, qui lui fait confiance. Où est-ce que nous pouvons croire à une pierre d'achoppement, à un rocher de scandale, mettre notre confiance dans une pierre d'achoppement, dans un rocher de scandale? Est-ce que cela n'est pas trop de demander? Qu'est-ce que Dieu nous demande et qu'est-ce qu'il exige de nous? Avec sûreté, nous aurions formulé cela complètement différemment. Ou bien, oui, différemment, mais Dieu, lui, sait ce qu'il dit. Il sait très bien ce qu'il dit. Il savait très bien que la grande foule, la grande masse se heurterait en Jésus-Christ et qu'il serait pour eux un scandale et que ceux qui bâtissent rejetteraient la pierre car elle ne s'ajustait pas dans leur édifice et que c'est seulement les vrais croyants qui ont cru et que c'est seulement les vrais croyants qui croiraient en lui, qui mettraient leur confiance en lui. Pour les incrédules, les incroyants, le Seigneur Jésus était un enfant illégitime, rejeté, méprisé, tout ce qu'il pouvait lui dire comme critique, ils l'ont dit. Mais les véritables croyants ont prêté leur oreille, ont fermé, pardon, leur oreille à toutes ces critiques et ont ouvert leur cœur pour ce que Dieu avait à leur dire. Pour eux, il n'était pas une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, mais il était la pierre angulaire, la pierre angulaire précieuse. Et Pierre écrit dans son épître, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais celui qui croit en lui ne sera pas confus. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Dans mon cœur, il s'agit de ce mot, de parler de ce mot réalité. Et je le souhaite à nous tous, que aujourd'hui nous puissions nous ravir dans la dimension divine. Dieu est la seule réalité éternelle. Aujourd'hui, nous allons faire la différence entre deux réalités. L'une, c'est la réalité éternelle divine, et l'autre, c'est une réalité temporaire qui aura une fin, qui est humaine, ou bien alors qui vient de l'ennemi. Nous allons un peu expliquer ça. Commençons avec Dieu. Dieu est une réalité éternelle. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de développement. Il n'a pas de croissance. Il n'a pas de fin. Dieu était et est et sera. Il est une. La réalité divine éternelle est notre Dieu. Nous pouvons placer en face de lui l'ennemi. Il n'était pas dans l'éternité. L'ennemi, il ne peut pas être de l'éternité. Il a été créé. Ça, nous pouvons le lire dans les Saintes Écritures, dans le prophète Ésaïe, chapitre 28, et dans Ézéchiel, chapitre 13, vous pouvez le lire. Lucifer a été créé. Il a voulu dire Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, verset 12. Et Dieu savait, dans le jour où il avait créé, ce qui allait devenir de lui. Ce qu'il deviendrait. Satan est un mensonge, une réalité trompeuse. Dieu, lui, il est une réalité qui demeure éternellement. Il est une réalité véritable. Véritable. Tout ce qui vient de Dieu, pour cette raison, demeurera éternellement. Tout ce qui sort de Dieu vient de Dieu, parce que Dieu est éternel. Tout ce qui vient de Satan est temporaire. Et nous devons nous décider, prendre notre décision. Où est-ce que nous voulons prendre notre position? De quel côté, pour quel côté nous voulons prendre position et de quel côté nous voulons nous tenir? Il y a toujours la confrontation, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Et on pourrait continuer sans limite les malices. La vie n'a pas de commencement. La vie est en Dieu. La mort a un commencement. La mort aura une fin. Frère Branham a fait cette puissante déclaration. Tout ce qui a un commencement aura aussi une fin. Seulement ce qui n'a pas eu de commencement n'aura pas non plus de fin. Alors, si nous avons reçu la vie éternelle, alors cela est la vie de Dieu lui-même qui a toujours déjà existé et qui existera toujours. Si nous voulons nous approfondir et approfondir cette pensée de la réalité et voulons venir à la chose elle-même, nous ne devons pas seulement alors dire que toutes les choses sont réalité dans l'univers, dans la création, mais nous devons venir au point central de la réalité de Dieu sur terre. Christ, notre Seigneur, est une réalité divine manifestée en forme humaine ici sur cette terre. Il y a et il y avait et il n'y en aura personne d'autre qui pouvait dire « Celui qui me voit a vu le Père. » Cela, c'est seulement notre Seigneur qui pouvait le dire. La parole était une réalité. Mais c'est seulement quand elle est devenue chair, dans la forme qu'elle a prise, c'est seulement à ce moment-là que Simon pouvait prendre le Seigneur entre ses mains, dans ses bras, et dire, maintenant tu laisses aller en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Donc, occupons-nous de ce commencement-là, de la création de Dieu, de cette nouvelle création qui a eu lieu ici sur cette terre pour un objectif éternel, divin. Tout ce qui était éternel est lié à un objectif éternel. Jésus-Christ est la parole devenue chair, qui est devenue chair. D'abord, c'était une promesse. Mais l'accomplissement de toutes les promesses qui se référaient à Christ le Messie, de Genèse 3, verset 15, jusqu'à Malachie, chapitre 3, verset 1, toutes les promesses étaient des réalités, mais d'abord en tant que parole. Mais quand le temps fut accompli, toutes ces promesses qui en tant que parole étaient, se tenaient déjà en tant que réalité, en parole, mais elles sont devenues une réalité. Elles se sont accomplies, elles se sont réalisées. C'est-à-dire, ce qui était exprimé, avait été exprimé dans toutes ces paroles qui étaient une réalité, ensuite, subitement, cela s'est tenu là comme une réalité aux yeux de ceux qui avaient cru la parole. Ça, c'est une réalité que personne peut renier. Et je voudrais déjà maintenant dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous aussi, nous sommes une réalité divine qu'on ne peut pas renier. Et en tant qu'une telle réalité, comme une telle réalité, nous devons maintenant comprendre. Nous devons comprendre que nous sommes une réalité divine. Et j'espère que cet après-midi et dans les autres réunions qui vont suivre, cela va contribuer à ce que nous puissions comprendre et voir que il nous soit montré que Dieu en Christ a seulement fait le commencement de cette nouvelle création, mais qu'il continue à agir jusqu'à dans nos jours encore, jusqu'à l'achèvement lors du retour de Jésus-Christ, quand tous nous serons transformés, changés, transformés à son image et seront semblables à lui. Bien sûr que quelqu'un pourrait dire, alors ce sera une réalité divine. Mes amis, notre nouvelle naissance, notre rachat est déjà une réalité divine. Christ ne doit pas maintenant mourir, il est déjà mort. Il a porté les péchés. Il est allé dans les endroits effrayants de la terre. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts, l'enfer. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Avec Dieu, nous avons affaire. Et nous avons affaire à Dieu et affaire qu'à des réalités divines pour ta vie et ma vie de croyant. Et ça, nous devons saisir cela. Il faut que cela soit clair pour nous tous. Notre Seigneur n'est pas venu seulement ici pour être ici sur cette terre. Il vint pour ce grand objectif que Dieu avait dans son dessein du salut, c'est-à-dire pour racheter une église épouse, pour l'appeler à sortir des hommes, des gens en qui ensuite il peut se révéler, se manifester. Des réalités divines. La réalité divine en Jésus-Christ notre Seigneur. La mort, c'est une réalité. L'enfer, c'est une réalité. C'est vrai. Ça, ce sont tous des réalités. Même du côté négatif, ce sont des réalités aussi. Mais, ce sont des réalités temporelles. Et ils sont, aux yeux de Dieu, déjà livrés à la perdition et à la fin. Mais à la fin, quand Dieu aura achevé son œuvre, on n'entendra plus parler de mort, d'enfer, de diable, de maladie, de péché, de toutes ces réalités temporaires. En parenthèse, en guillemets, nous n'entendrons plus parler, plus rien ne sera resté de toutes ces choses négatives, complètement à la fin. Pour toute l'éternité, il n'y aura qu'une seule réalité. Il n'y aura qu'une seule chose, et ce sera la réalité divine, éternelle. Elle restera, elle demeurera. Et toi et moi, nous sommes déterminés à la vie éternelle. Nous avons reçu la parole de Dieu en tant que semence incorruptible dans notre cœur. Elle demeure dans notre âme. Et déjà maintenant, en tant que nés de nouveau, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des réalités du Dieu Tout-Puissant, ici sur cette terre. Jean écrit au chapitre 3, dans le premier épître, ce n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Ça, nous n'avons pas besoin de saisir ça de nos propres pensées, car cela dépasse ce que nous pourrons penser. Mais nous devons le croire de tout notre cœur et mettre notre confiance dans le Seigneur, notre Dieu. Sans la foi, il est impossible de croire, de plaire à Dieu. Les réalités divines ont vaincu les réalités diaboliques, temporelles. Notre Seigneur qui est la vie, comme dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20, nous pouvons le lire. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Et tel que nous pouvons le lire, il te blessera le talon et tu lui écraseras la tête. Ici, il est parlé de Christ, la semence divine, et ensuite du serpent. Sur la croix à Golgotha, cela a eu lieu. Bien-aimés amis, aussi certains que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, était une réalité divine ici, sur cette terre remplie de malédictions. C'est ainsi que par sa réconciliation et par sa victoire sur la croix à Golgotha, la réalité divine, ici sur cette terre, nous a été rendue. Nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est une réalité divine. Nous devons maintenant prendre cette décision. Décider ce que nous voulons croire. Nous pouvons durant toute notre vie, marcher comme ça, un peu courbé, et toujours dire, Seigneur, je suis un pécheur. Et ça, nous pouvons le faire jusqu'à que nous soyons âgés et vieux et jusqu'au retour du Seigneur. Mais nous pouvons aussi nous tenir du côté de Dieu. Et avec Paul, ce que nous venons de lire, dans la foi, le prononcer de notre propre bouche, que nous sommes. Donc, ce n'est pas les œuvres de la loi que nous avons cherché cette justice qui est valable devant Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons reçu cette justice qui est valable devant Dieu. Aussi certain que notre Seigneur, ici sur terre, était une réalité divine. Aussi certain que Golgotha est une réalité divine pour toi et pour moi. Et pas seulement pour nous. Vous savez ce que je vais vous dire aujourd'hui? Ce qui s'est passé à Golgotha devait... Donc, le diable et l'enfer, le diable et tout ce qui était contre Dieu ne devait pas seulement le reconnaître, mais le respecter. Ça ne pouvait pas être autrement. Les réalités divines seront toujours vainqueurs. Et même si il pourrait sembler que le diable a un triomphe entre ses mains, et c'est ainsi que cela semblait être autrefois, ceux qui sont venus l'accuser, nous avons entendu, il a blasphémé contre Dieu, et l'un après l'autre suivait des faux témoins. Extérieurement, tout semblait perdu et sans espoir. Mais Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, une réalité divine ici sur cette terre, marchant, il est allé dans la mort. Mais la mort ne pouvait pas le conserver. Il a englouti la mort dans la victoire. Il est descendu en enfer et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et alors que sur l'île de Patmos, il rencontrait Jean, il lui a dit, j'étais mort, mais voici, je vis éternellement et je tiens les clés du séjour de la mort et du séjour des morts, de l'enfer en allemand. Il n'était pas seulement en bas. Il a ôté à Satan les clés. Et celui qui a les clés, c'est lui qui commande. Et il est le Seigneur. Oui, il est Seigneur. Alléluia. C'est lui qui est le Seigneur sur la vie et sur la mort. Jésus-Christ est une réalité divine. Et l'œuvre de la rédemption est aussi une réalité divine. Est-ce que nous pouvons saisir cela? Alors, nous voulons dans la foi nous comporter en tant que tel, pas en voir comme ça quelque chose en partie, ou bien en faire quelque chose qui est en partie, mais simplement dire, Seigneur, si la chose est vraiment ainsi, que à Golgotha, tu as payé entièrement le prix, pas seulement comme ça un gage, ou bien des arts pour notre rédemption, comme ça, une échéance, mais il a donné tout le prix, toute la somme. Donc, comprenons que nous n'avons même plus de fautes. Nos fautes ont été payées. Si tu avais des dettes et que quelqu'un viendrait et paierait entièrement tes dettes, encore même plus que ce que tu devais, avec les intérêts et tout, et que nous irions toujours à la personne à qui nous devions l'argent et dirions, mais est-ce que je peux ici encore donner une échéance? Complètement à la fin, à la caisse, les gens vont se remettre la tête et vont dire, mais celui-là, il n'est pas normal. Il ne doit plus rien et il vient encore payer ses dettes. Et c'est ainsi que le Seigneur, et ils n'ont pas compris, est-ce qu'ils n'ont pas compris que ils diront, mais est-ce que vous n'avez pas compris que M. tel et tel à l'époque avait déjà payé toutes vos dettes? Et ils diront, ah d'accord, merci. Et après quelques semaine, la même personne reviendrait à la caisse et voudrait payer ses dettes. Qu'est-ce que les gens de la caisse à la banque diraient? Mais c'est comme ça que parfois nous sommes, en tant que croyants, insensés. Nous voulons payer et comprenons pas Nous pensons que nous devons encore quelque chose. Alors que nous ne comprenons pas qu'il y en a un qui a tout payé. Donc nous ne devons plus rien. Nos péchés sont pardonnés. Nos fautes sont payées. Et le prix est payé. Ça, c'est une réalité divine. Tout le reste, ce sont des mensonges, des réalités mensongères. Et vous savez qu'il y a des gens qui existent qui, n'est-ce pas, veulent faire un reproche à un testament. Sur Terre, ça existe. Quand quelqu'un meurt et qu'il fait un testament et il y en a qui ça ne leur plaît pas, alors le testament est accusé. Et donc, il y a même un procès verbal. Non, devant Dieu, rien ne peut être accusé. Ou bien alors contester un testament. Non, le procès verbal a déjà eu lieu. Qui peut venir contester quelque chose? Et le Seigneur a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Pas comme ça. Tomber du ciel comme un éclair. Pas comme ça, en planant comme ça, disons, mais comme un éclair. Et nous voulons, bien mes frères et sœurs, laisser toute la place à Dieu dans notre vie avec ses réalités divines et dire, Seigneur, tout le reste, ce sont des réalités mensongères, péché, maladie, détresse, problème. Tout cela n'est pas la condition éternelle dans laquelle nous serons. L'état éternel. Et même que nous prenons de l'âge, nous vieillissons, mais ce témoignage, ce corps-là, cela nous rend, c'est moi un témoignage qu'il y a un corps de résurrection qui nous attend. Les choses temporaires sont des réalités mensongères, temporaires. Mais les choses éternelles, ce sont des réalités divines, éternelles, qui demeurent éternellement, qui n'ont jamais commencé et qui ne cesseront jamais, qui n'auront jamais de fin. Où est-ce que nous voulons, d'où est-ce que nous voulons nourrir nos pensées? De quel endroit? Alors que Jésus était sur cette terre, il était la parole de la promesse qui avait pris forme. Il y avait une vierge, Marie, et il est même écrit de manière si merveilleuse, elle croyait, elle a cru, elle a accepté la parole de la promesse. Elle a cru. Et la parole qui était une réalité en tant que parole écrite en forme de la promesse, ensuite a pris forme humaine au moment où elle a été crue, au moment où ce que la promesse disait fut cru. C'est à ce moment-là que cela a pu prendre forme. Et dans cette phrase, même si elle était longue, en fait, tout a été résumé. Tel que dans l'époux, la parole de la promesse, des promesses, les paroles des promesses ont été résumées et sont devenues une réalité divine, sont devenues des réalités divines ici en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ici sur cette terre, devenant chair. Les paroles de la promesse, les réalités sont devenues chair. C'est ainsi aussi avec l'épouse, avec le corps de Jésus-Christ que cela devenir, ce que ça doit devenir. Toutes les promesses qui ont été données à l'Église épouse, qui sont données à l'Église épouse, deviendront, en ceux qui croient, une réalité divine ici sur cette terre. Subitement, nous n'avons pas seulement la parole de la promesse. Nous remarquons que en nous et par nous, elle est devenue une réalité. Est-ce que vous pouvez croire cela? Tel que Dieu, dans ce que Dieu a fait dans le Rédempteur, dans le Sauveur, c'est ainsi qu'il le fera dans tous les rachetés. Ils sont une église, une épouse, parole, engendrée par le même Esprit de Dieu, née de nouveau pour une espérance vivante. Une réalité divine en Jésus-Christ, les réalités divines en Jésus-Christ. Le Rédempteur, réalité divine dans tous les rachetés. De la même manière en qui la parole de la promesse a été crue et ensuite a pu prendre forme en eux. Nous, Dieu nous a donné tout pouvoir. Nous a donné le pouvoir, nous qui croyons au nom du Fils de Jésus. C'est ce qui est écrit dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 1. Tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Et le Seigneur a dit, dans l'ordre missionnaire, je vous donne, oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Que nous puissions laisser valable les réalités divines et ces réalités qui viennent de l'ennemi, là, qu'on puisse les considérer comme déjà étant passées. Et les considérer comme étant passées. Car ce sont des réalités mensongères. Ce sont des mensonges. Satan lui-même, de son état originel, est sorti. Il était un ange de lumière, mais c'est tout ce qu'il avait à offrir. La mort, la maladie, l'enfer, la mort, les problèmes, c'est tout ce qu'il avait à offrir. Et tout ce qu'il a à offrir est passager, est temporel. Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il a apparu en Christ Jésus et il est devenu une réalité ici sur la terre. Dieu est devenu et il nous a rachetés. Il nous a ramenés à lui. Nous lui appartenons éternellement. Nous sommes son appartenance divine. Et en tant que des gens qui sont à lui, nous sommes des réalités en tant que fils et filles de Dieu. Nous n'avons pas besoin en fait de nous occuper. Nous n'avons plus besoin de nous occuper de l'adversaire et de nourrir nos pensées comme si ce procès verbal n'aurait pas eu lieu. Sans orgueil, avec des cœurs courbés, mais avec des cœurs croyants, nous disons, ennemi, tu es vaincu. Enfer, tu es vaincu. Péché, tu es pardonné. Maladie, tu es guéri. Ésaïe 53, ce sont des réalités. Ésaïe nous donne même à l'avance la garantie. Mais il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pas va tomber, mais est tombé. Et c'est par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Jésus-Christ. Une réalité divine, ici, sur cette terre, marchant ici sur cette terre. Toi et moi, une réalité divine aussi, en tant que fils, comme fils et filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur. Est-ce que nous devrions encore continuer à l'attrister par l'incrédulité, par le doute? Non, nous nous plaçons du côté de Dieu. Nous nous tenons du côté de Dieu et nous disons, Seigneur, maintenant nous le reconnaissons. Tu es venu sur cette terre remplie de malédictions et de péchés. Tu as été sans péché. Tu étais sans péché, mais tu as porté toutes nos fautes et nos péchés sur toi. Tu as pris toutes nos fautes et nos péchés. Tu les as prises. Tu t'es laissé meurtrir, frapper, briser. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, je vois maintenant ma rédemption. Mon rachat est une réalité divine. Je suis racheté. Je suis sauvé. Je suis affranchi. Tu m'as appelé de mon nom. Je suis à toi. Et aussi certain que toi, en tant que sauveur, est une réalité divine que moi aussi, en tant que racheté en tant qu'enfant de Dieu, racheté, je sois une réalité divine. Je deviens une réalité divine. Paul écrit aux Romains que toute la création soupire en attendant la manifestation des fils et des filles de Dieu. Mais bien aimé, Dieu, et maintenant je parle de l'épouse. Quand je dis l'Église, l'épouse. Il va l'utiliser pour confirmer les dernières promesses qui sont encore écrites dans la Bible par son corps, qui est l'Église. Les promesses qui restent encore deviendront une réalité divine, prendront forme, telles que toutes les promesses qui se référaient à lui, en lui et par lui, sont devenues une réalité, ont pris forme, sont devenues chair. Et que ce n'était pas écrit? Mort. Je te serai une pestilente. Et que ce n'était pas déjà écrit dans le prophète Ésaïe? Que, oui, c'est écrit qu'il engloutira la mort pour toujours. Ésaïe 25, verset 8. Est-ce que Ésaïe n'a pas dit, David, je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption? Il n'y avait pas assez d'écriture là? Chaque parole de Dieu sont devenues une réalité, se sont accomplies. Lors de la naissance, dans la vie de Jésus, dans ses souffrances de Jésus, dans la mort de Jésus, dans les souffrances de Jésus, dans son ensevelissement, dans son parcours vers l'enfer, dans sa résurrection le troisième jour, dans sa montée au ciel, par son retour. Tout cela, c'est l'accomplissement des Écritures, de la parole de Dieu. Et ce sont des réalités divines en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais bien-aimés, nous aussi, nous sommes des réalités divines. Car sans les membres, lui en tant que rédempteur, en tant que sauveur, il n'est pas complet. Sans ses membres, chaque membre, tous les membres appartiennent à la tête. Sont une partie de la tête en tant que membre du corps. Donc, quand nous voyons que tout ce qui était prophétisé sur lui, à 100%, s'est accompli. Et je le répète, de sa naissance jusqu'à sa montée au ciel, Dieu est monté sous cri de triomphe. Déjà, le psalmiste l'a écrit à l'avance. En lui, qui lui-même est une réalité divine, était une réalité divine, en lui s'est accomplie chaque promesse qui, en tant que parole, était une réalité et faisait référence à lui, était écrit, faisant référence à lui. Mais maintenant, à nous. Car ça, nous le croyons. Maintenant, c'est à nous qu'il est demandé de nous examiner à la parole de Dieu. Dieu a promis, avant que le jour terrible et redoutable éternel vienne, il a promis de nous envoyer le prophète Élie pour ramener le cœur des enfants de Dieu de nouveau à la parole des pères. Est-ce que la promesse est devenue une réalité divine? Amen. Amen. Dieu a déjà accompli cette promesse. De Malachie 4, verset 5, ça c'était la promesse principale de laquelle toutes les autres promesses qui restent encore à s'accomplir sont dépendantes. D'abord, il faut que la promesse principale trouve son accomplissement. Et dans cette promesse principale se trouvent ensuite toutes les autres promesses qui sont écrites pour l'Église. Elles trouveront aussi l'accomplissement. Jusqu'à même toute la restauration, le rétablissement de tout ce qui existait dans l'Église, de tout ce qui existait dans l'Église primitive. Dieu, dans cet âge prophétique, a accordé la lumière. Il a parlé avec nous. Il a envoyé son serviteur le prophète pour nous faire sortir des ténèbres, nous appeler à sortir des ténèbres et à marcher et nous montrer le chemin divin éclairé par sa lumière. Et ça, nous le disons avec plein d'assurance, par le ministère de Frère Branham. Des Écritures se sont accomplies. C'est pour cette raison qu'elles sont devenues une réalité divine. Tout ce que Dieu fait sur terre, il le fait en accord avec sa parole. Et il est encore écrit dans Amos, le chapitre 3, verset 7, « Dieu ne fait rien sans d'abord révéler ses secrets, son dessein à ses serviteurs, les prophètes. » Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Dieu veille sur sa parole. Pour Dieu, la parole est déjà une réalité. Pour nous, si nous la voyons accomplie et que nous en prenons et que nous prenons part à cela, la bénédiction consiste à ce que ce ne soit pas seulement que nous l'ayons entendu en tant que promesse, mais que il peut nous être dit, « Oh, béni êtes-vous, vous qu'avez cru. » C'était comme ça avec Marie. C'est comme ça aussi maintenant. Béni est celle qui a cru. Et nous aussi, cela peut nous être dit. Nous avons affaire à des réalités divines. Et nous-mêmes, nous serons par l'accomplissement des promesses divines dans notre vie, nous seront une réalité divine vivante en tant que fils et filles de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'avoir honte de ça. De notre Seigneur, il est écrit qu'il n'avait pas honte de nous appeler frères. Il aurait pu, en tant que le saint, en tant que le véritable, il aurait pu avoir honte de moi et de nous tous. Il n'a pas eu honte. Au contraire, il l'a porté notre honte, il a porté toute notre condition sur lui. Maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, nous passons à laps de temps dans lequel Dieu de nouveau confirme la parole qui, en tant que promesse, est déjà une réalité. Par l'accomplissement dans l'Église et par l'Église, il a rend une réalité divine. Ça prend forme, ça prendra chair. C'est peut-être raison que déjà maintenant, nous devons nous attendre à ça, croire cela. C'est impossible qu'une seule promesse reste sans s'accomplir. C'est pas possible. C'est impossible que Dieu briserait ne serait-ce qu'une seule parole, une seule. C'est pas possible. Il est là en écrit que l'Écriture ne peut pas être brisée. Tous seront enseignés de Dieu. Et par l'enseignement de Dieu, la lumière apparut pour nous. L'Écriture ne peut pas être anéantie, car la même onction qui était sur lui, que Dieu utilisait pour nous parler, la même onction est aussi sur ceux qui écoutent la prédication de cet homme oint. Et Jean dit même que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car vous avez reçu du Saint l'onction. Et tel que l'onction vous enseigne, demeurez ainsi en lui, car elle vous enseignera sur toutes choses. Et tel que l'onction vous enseigne, c'est ainsi que c'est juste. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a oint ses serviteurs. Ils étaient appelés des fils de Dieu. Ils étaient appelés des dieux. Vous pouvez aller lire dans le psaume et dans Jean 10 et dans le psaume 81, je crois, des gens qui marchaient sur cette terre malgré tout. Ils étaient une réalité divine. Psaume 82. N'ai-je pas dit à qui Dieu a parlé, vous êtes des dieux? Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si Dieu n'accomplit pas cette parole en eux, ceux par qui Dieu a parlé, Dieu qui les a utilisés comme canal, par eux, Dieu a pu faire couler sa parole. Ceux qui étaient porteurs de sa parole, si déjà eux, ils avaient été adressés comme étant des dieux, Qu'est-ce qui doit alors se passer avec ceux en qui et par qui et en qui et par qui la parole de Dieu s'accomplit? Que des hommes de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, ont prononcé. Qu'est-ce qui doit se passer alors avec ceux en qui la parole de Dieu s'accomplit? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes une réalité divine. La parole de Dieu nous a été adressée. Dans notre cœur, elle a pénétré. Nous avons un oui et un amen entier à Dieu et à sa parole. Parfois, des hommes sont assis sous l'écoute de la parole avec une petite rébellion, bien un rejet dans leur cœur. Alors, ils doutent, ils ne savent pas si c'est vrai ou pas. Même quand quelqu'un vint au Seigneur, il devait croire. Le Seigneur demandait toujours, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Que je peux te faire ça? Que cela peut arriver? Et si la personne concernée, dans la foi, répondait oui, alors le miracle avait déjà eu lieu. Le miracle avait déjà eu lieu. Aujourd'hui, dans ce culte, dans cette réunion, nous attendons à cela, à la même chose, que les réalités divines soient manifestées. Salut de l'âme à ceux qui sont perdus. Guérison à ceux qui sont malades, en ceux qui sont malades. Délivrance en ceux qui sont liés et dominé par l'ennemi. Satan est une réalité vaincue. La maladie est une réalité vaincue. Donc, mis hors de force. Je le répète, il a englouti qui? La vie, la mort ou bien la mort, la vie? C'est la vie qui a englouti la mort. Qui est le vainqueur? Notre Seigneur. Notre Rédempteur. Et je le répète encore une fois, il n'a pas eu honte d'aller dans les entrailles inférieures de la terre, en enfer. Il est Seigneur sur la vie et la mort. Est-ce que tout n'a pas été créé par lui et pour lui et en lui? Et que ce soit domination ou bien trône, vous pouvez le lire dans Colossiens, chapitre 1, peut-être à partir du verset 16. Tout a été créé par lui. Et il est au-dessus de tout, toute domination. Et aujourd'hui, il doit avoir la première place. Il doit être mis avant toute chose. Nous voulons commencer à penser de manière divine. Et dans nos cœurs, dire, Seigneur, c'est vrai. En tant que promesse, tu es devenu une réalité. Tu es mon sauveur, devenu mon sauveur, mon rédempteur. Tu as payé le prix. Mon rachat est une réalité divine. Ma rédemption, mon pardon, je suis un enfant de Dieu. Je t'appartiens. J'ai reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu. Cette réalité divine manifestée dans la chair. Et par lui, nous sommes aussi devenus une telle réalité divine. Combien peuvent de vous comprendre cela? Parfois, nous sommes assis là et je me demande, est-ce que la parole passe à côté de nous ou bien alors elle nous touche? Et moi, cette pensée m'a profondément touché et occupé. Je dis Seigneur, et je disais Seigneur, si je pouvais seulement partager ça avec ton peuple. Nous avons lu, rassemble-moi le peuple, je veux lui faire écouter mes paroles. Deutéronome 4, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Car les paroles de Dieu sont une réalité divine. Et les paroles de Dieu nous ont été adressées en tant que réalité divine. Les réalités divines par la parole en toi et en moi sont venues, ont été reçues de nature. nous étions tous dans le péché. Une réalité mensongère. Un mensonge. Un mensonge réel. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est venue en nous. Et maintenant, nous sommes devenus une réalité divine. Divine. Et un jour, nous allons aussi déposer cette enveloppe mortelle et recevoir le corps de résurrection. Mais bien aimé, cela ne va plus durer. Ce n'est plus loin. Et de nouveau, tout sera une réalité divine. La résurrection sera bientôt une réalité. L'enlèvement sera bientôt une réalité. Nous verrons notre Seigneur et avec lui, il n'y a pas de doute, nous entrerons dans au festin des noces de l'agneau. Car pour Dieu, toute promesse, chaque promesse est déjà une chose close et déjà une réalité. Et même si nous devons encore attendre ces choses, alors que David disait que le saint ne verra pas la corruption, c'était déjà une réalité divine. Mais ensuite, ça a été manifesté. C'était déjà une réalité divine. Chaque promesse qui est écrite dans la Bible et qui a été écrite pour l'Église et pour son peuple, aux yeux de Dieu, elles sont déjà une réalité divine. Toutes les prophéties. Comment est-ce que dès aujourd'hui, nous devrions vraiment prier les uns pour les autres. Que Dieu, dans la foi, puisse nous fortifier et qu'il puisse ôter chaque doute et que nous puissions entièrement lui faire confiance. Rassemble-moi mon peuple. Je veux leur faire écouter mes paroles, entendre mes paroles. Rassemble autour de moi, assemble autour de moi pour qu'ils apprennent à me craindre. Car c'est dans la crainte de Dieu que le commencement de la sagesse divine se trouve. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Là où Dieu laisse à son peuple écouter sa parole, c'est là qu'il veut que nous puissions dans la crainte nous réunir. Et ça, ce n'est c'est plus que correct devant sa face, juste devant sa face, agréable. Nous avons lu dans le prophète, dans le prophète Joël, rassemblez le peuple, convoquez un saint jour de prière, sanctifiez l'assemblée. Et il est écrit, sanctifiez-les dans ta parole. Ta parole est la vérité. C'est dans les vérités de la parole de Dieu que l'Église est sanctifiée. Rassemble-moi, mon peuple. Il mentionne Joël 2, le verset que nous avons lu. Auprès de moi pour qu'ils puissent entendre ma parole et apprendre à me craindre tant qu'ils vivent sur cette terre. Rassemble le peuple. Sanctifiez l'Église. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Encore moins l'Assemblée. Mais Dieu, lui, il a un certain ordre. Et il a donné sa parole, sa sainte parole à son Église, assembler le peuple, former une sainte réunion pour que son Église soit sanctifiée de la parole de la vérité. C'est comme ça que nous avons une sainte réunion. Et c'est là que le Seigneur peut nous bénir et nous révéler sa parole contenant toutes les promesses dans ce temps, pour ce temps. Assembler le peuple, former une sainte réunion, Joël 2. Assembler les vieillards, assembler les enfants, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité, Joël 2, verset 16. Et puis Jean 17, verset 17. Le Seigneur sanctifie sa parole, son Église qui accepte et reçoit sa parole révélée en tant que vérité divine dans ce temps. Crois et de tout leur cœur acceptent et reçoivent. Ça, c'est l'Église qui est sanctifiée. Ça, c'est la Sainte Réunion, la Sainte Église. Tout le reste, ce sont des propres efforts pour être sanctifié. Malgré tout, il est dit dans la prière, « Seigneur, Éternel, le verset 17 de Jean, de Joël 2, « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'eau propre. » Ça aussi, c'est notre prière aux railleries des nations. Le Saint Dieu doit à moi, peut-être aussi en toi, en moi et en toi, ôter plusieurs choses. Malgré tout, il est dit ici, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi diront parmi les peuples, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Qu'ils puissent voir que Dieu a une église sur terre à laquelle il parle et qui écoute sa parole et qui croit sa parole, une église en tant qu'une réalité, comme une réalité, en tant qu'une tente, comme une tente d'assignation ici sur cette terre, tente de révélation, un lieu où Dieu se révèle, se manifeste ici sur cette terre. Cela, dans ces derniers jours, c'est ce que Dieu veut réaliser par nous et en nous tous. Les dernières promesses qui restent à s'accomplir doivent devenir une réalité divine par l'Église. Christ, Jésus, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Rédempteur, une réalité divine en forme humaine. Tous les fils et les filles de Dieu qui sont rachetés par le sang de l'agneau sont des enfants de Dieu. Et avec cela, ils sont aussi des petites réalités divines. Ici, sur cette terre, cette parole, ou bien alors cette expression, peut-être en ce moment, est un peu nouvelle pour nous. Mais pour moi, elle est précieuse. Telle que mon Père terrestre, terrestre, oui, ne peut pas me renier. Je suis une réalité de son engendrement ici. Comment est-ce que le Père céleste, nous qui sommes nés de lui, comment est-ce qu'il peut te renier et me renier? C'est pas possible, il ne le peut pas. Nous sommes là en tant qu'une réalité divine, en tant que des fils et des filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas de doute. Il dit lui-même, même si nous étions infidèles, c'est-à-dire qu'il ne peut pas nous renier parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas être infidèle. S'il nous reniait et disait que nous ne sommes plus ses enfants, alors il se renierait lui-même et agir contre son propre objectif. Et ça, Dieu ne le fait jamais. Au contraire, il achève son œuvre. La naissance de Jésus, sa vie, sa mort, ses souffrances, son ministère, son ensevelissement, sa descente en enfer, sa résurrection, sa montée au ciel, tout cela sont des réalités divines. À cela, avec le diable, on n'a plus besoin de négocier avec lui. On a seulement besoin, dans la foi, de prononcer ça et dire, Satan, tu es un menteur. Tu es le père du mensonge. Et dès qu'il parle, il ment. Mais quand Dieu parle, il dit tout ce qui est vrai. Nous avons vraiment seulement besoin d'abord dans la bonne disposition de notre cœur de nous approcher de Dieu et ensuite avec Dieu résister au diable. Et déjà là, le Seigneur nous accordera la victoire. Pas seulement une des réalités divines en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais chaque promesse donnée à l'Église, qui sont en forme de paroles dans les Écritures écrites, sont déjà, en tant qu'écrites, déjà une réalité, en tant que promesse, en tant que, déjà une réalité divine. Mais dans l'Église et par l'Église, elles doivent s'accomplir. Et alors, nous avons affaire à des réalités divines parmi nous, en nous et autour de nous. Comme en Christ, le Rédempteur, le Sauveur, c'est ainsi aussi dans tous les rachetés. La même parole de Dieu s'accomplit. La même bouche a parlé. Hein? C'est la même Bible que nous avons, une seule Bible. Et elle est la parole de Dieu. Aujourd'hui, et dans l'éternité, et dans le futur, pardon. Nous voulons, par la foi, honorer Dieu et dire, Seigneur, nous sommes ce que tu as fait de nous. Ce que le péché, ce que le diable a fait de nous, ce sont des mensonges réels. C'est un mensonge, des réalités de mensonges. Mais ce que Dieu a fait de nous, c'est une réalité éternellement valable, demeurant éternellement. C'est ça qui est valable. C'est ça qui est vrai, pas le reste. Et le jour vient où Satan sera jeté dans le temps de feu, la mort et tout cela sera jeté aussi dans le temps de feu. Et alors, les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaîtra. Et alors, nous viendra et donc nous verrons que des réalités divines, d'éternité en éternité. Alléluia. Est-ce qu'il y a un plus grand message? Est-ce qu'il y a un autre évangile? Non. L'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, doit être apporté à tous les fils et filles de Dieu et doit être pour eux la puissance de Dieu et trouver en eux son accomplissement pour l'honneur de Dieu et ainsi devenir une réalité divine par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons dans le recueillement, dans la prière, nous recueillir et persévérer devant la face de Dieu, fermer les yeux, courber les têtes, ouvrir les cœurs. Mais bien-aimés, nous avons affaire à deux réalités. Nous avons affaire le péché originel, les défaillances humaines jusqu'à la mort, l'enfer que nous avons mérité en fait. Nous avons affaire à ces réalités. Nous ne pouvons pas renier ces réalités. Elles sont là. Tous les hommes tous les hommes qui naissent dans ce monde meurent. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Hébreux 9, au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout cela, ce sont des réalités. Et ces réalités se tiennent en face des réalités divines, véritables, valables, éternellement. Aujourd'hui, vous devez expérimenter les réalités divines. Aujourd'hui, Dieu, par sa parole, qui en tant que promesse dans notre cœur, vient. Il veut réellement la confirmer et la rendre une réalité divine, la rendre ce qu'elle est. Pendant que nous gardons les têtes courbées et fermons les yeux, et gardons les yeux fermés, je voudrais demander, est-ce que quelques-uns sont ici qui connaissent seulement qu'une seule réalité et qui voudrait bien, par Golgotha, être ravi dans l'autre réalité, dans la réalité divine, dans la réalité de Dieu. si vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie lui-même et que vous expérimentez vraiment le pardon de vos péchés et vous recevez le pardon des fautes et la vie éternelle, levez maintenant les mains. C'était pas pour que nous puissions prier pour vous. Merci. 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 Dieu vous bénisse. Peut-être qu'il y en a encore quelques-uns ici, mais bien-aimés, tel que la vie est une réalité, c'est ainsi que aussi la mort est une réalité. Aussi, le côté négatif est une réalité. Et celui qui veut échapper à la perdition et qui ne veut pas se perdre, il doit être sauvé. Bien, il doit expérimenter son salut. Bien, frères et sœurs, le Seigneur vous appelle tous. Venez, venez à lui. Et tu seras sorti de la réalité mensongère qui mène à la perdition. Tu sortiras de cette réalité mensongère et tu seras placé dans la réalité divine qui, pour finir, t'enlèvera dans la gloire de Dieu. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut consacrer vraiment sa vie à Dieu? Alors, levez, s'il vous plaît, les mains. Merci. Oh, merci. Merci. Dieu vous bénisse. Prions. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Oh Seigneur Dieu, ton peuple est rassemblé ici, pas pour écouter des paroles d'hommes, mais pour écouter les paroles de Dieu. Oh Seigneur, je te remercie de ce que ta naissance, ta vie, ta mort, ta résurrection, ta montée au ciel, tout cela sont des réalités divines. Seigneur fidèle, nous venons ensemble à toi avec tous ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur Dieu, sauve-les. Touche-les tous. Touche-les dans le plus profond de leur âme. Que ta parole en eux puisse tomber. Ô Dieu, produis la repentance, le regret, une conversion, un retour à toi, le Dieu vivant et véritable. Ô Seigneur, tu as souffert pour nous, tu es mort pour nous, tu t'es laissé briser et frapper, tu fus meurtri à cause de nos transgressions, de nos iniquités, frappé à cause de nos péchés. Seigneur, mon Dieu, personne n'a été traité ainsi comme toi, personne. On a craché sur toi, ô mon Rédempteur, toi, tête saignante et méprisée, toi, roi des rois, nous venons de cette réalité mensongère. Nous sortons de cette réalité mensongère dans les réalités véritables, divines, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Sauveur, nous nous appuyons en faisant cela sur la parole que tu as exprimée dans Jean, que celui qui croit en toi est passé de la mort à la vie et que Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh Seigneur, pardonne et couronne de grâce et de miséricorde. Dieu fidèle, que en nous tous et avec nous tous, cela te réussisse de rendre ta parole, tes promesses, une réalité. Alléluia. Amen. Fin de la transmission.